Radio Okapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Voici le sommaire. Restructuration ou pas du Conseil supérieur de la magistrature. Question au centre du débat hier aux États généraux de la justice à Kinshasa. André Mbata, député national et professeur des droits constitutionnels, propose que le chef de l'État devienne le président de cet organe. Et Lambert Mende, député national, recommande au Conseil supérieur de la magistrature de cesser de se considérer comme un syndicat. Situation tendue ce vendredi sur l'axe Pinga-Peti dans le territoire de Walikale et au Nord Kivu. Les combats ont repris hier entre d'une part l'armée congolaise et les combattants au VDP Wazalendo et d'autre part le M23. Certaines sources militaires parlent de la récupération de Peti par les FARDC. Et puis, l'université de Kalemi totalise 20 ans d'existence cette année, une occasion pour les autorités académiques de faire le point sur les réalisations accomplies par cette institution. Pour en parler, nous recevons le professeur Victor Kalunga, recteur de l'université de Kalemi. Madame, Messieurs, bonjour. Les États généraux de la justice, les travaux se poursuivent pour la troisième journée consécutive ce vendredi 8 novembre à Kinshasa. Pour la journée d'hier, le débat était centré sur la restructuration ou pas du Conseil supérieur de la magistrature. Le député national et professeur des droits constitutionnels André Mbata propose que le chef de l'État devienne le président de cet organe, étant donné que la justice est une affaire de tous, elle ne doit être laissée au seul magistrat. André Mbata, dans ses propos recueillis par Jeff Ngoy.
Des réformes sont à faire. Ma recommandation, c'est que je propose qu'on revoie la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que sinon, les assises comme celle-ci n'auraient pas un sens. Pour soigner la magistrature, pour voir et aborder les questions qui touchent à la magistrature, toute la société doit être concernée. Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Évidemment, il pourra y avoir des implications d'ordre constitutionnel. Mais je souhaite que, comme dans plusieurs pays, cet organe soit élargi aux non-magistrats. Et dans le cas d'espèce, pourquoi est-ce que le président de la République ne serait pas le président du Conseil supérieur de la magistrature? Mais parce qu'on l'appelle magistrat suprême, parce qu'il est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Pourquoi pas? Ça existe dans plusieurs pays. J'ai cité le Sénégal, j'ai cité la République centrafricaine, je pouvais citer le Cameroun, je pouvais citer le Gabon et plusieurs autres.
Et pour Lambert Mende, député national, le Conseil supérieur de la magistrature doit cesser de se considérer comme un syndicat et doit sortir de son corporatisme pour l'intérêt général et non des seuls magistrats. On écoute Lambert Mende une fois de plus, propos recueillis par Jeff Ngoy.
Une restructuration de cet organe prenant en compte, 1, l'unicité du ministère public et 2, la nécessité d'y impliquer au sein du Conseil supérieur de la magistrature, pourquoi pas des représentants du pouvoir exécutif. On a cité la France, mais en France, l'exécutif est représenté au Conseil supérieur de la magistrature. Il faut aussi y impliquer des représentants du barreau ainsi que des jurisconsultes. Afin d'anéantir le tropisme corporatiste qui tend à réduire le Conseil supérieur de la magistrature au rôle d'un syndicat des magistrats, alors qu'il n'est pas un syndicat, il est plus que cela, c'est une institution de la République. Et je voudrais ici citer encore une fois notre éminent président de la Cour de cassation, lorsqu'il dit qu'il faut savoir contrôler sans interférer dans l'indépendance des juges. C'est ce que nous attendons.
Parlant des états généraux de la justice toujours, les habitants de la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo saluent l'organisation de ces assises. Cependant, leurs avis sont partagés quant aux résultats sur terrain. Si certains affirment qu'ils pourront trouver des solutions aux multiples maux qui gangrènent la justice congolaise, d'autres par contre déclarent qu'il n'y aura rien de bon. Ils s'expriment au micro de Jacques Moukonkole.
Les états généraux de la justice se tiennent pour énumérer d'abord les problèmes qui freinent la justice et aussi chercher des solutions. Ce qui concerne la réparation de l'appareil judiciaire, la réhabilitation de l'appareil judiciaire, il faudrait tenir compte de plusieurs facteurs. Il y a d'abord la compétence, la formation des acteurs de la justice.
Franchement, c'est une bonne initiative, mais je crains que ça ne puisse accoucher d'une souris, qu'il faille mettre beaucoup de moyens pour encourager les concernés rémunérer quelqu'un qui gère un dossier de 1 000 $, 2 000 $ pour être payé en monnaie de singe, j'estime que ce n'est pas bon. Aussi, faudra-t-il attaquer les récalcitrants, des gens qui font du n'importe quoi, ils font la justice familiale, la justice personnelle, ce qui n'est pas bon.
Il faut bannir les tribalismes. Quelqu'un peut détourner, peut faire du mal. Il a un frère juriste, on sanctionne, mais à un certain moment, on relâche l'homme en question. À l'époque de Mobutu, on faisait des permutations dans des contrées où tu n'as pas de femme. Vous allez travailler dans l'objectivité parce qu'il n'y a pas de sentiments.
Direction le Nord Kivu, je vous l'ai dit dans les titres. La situation reste tendue ce vendredi sur l'axe Pinga-Peti dans le territoire de Walikale. Les combats opposant l'armée congolaise et les combattants VDP Wazalendo aux rebelles M23 ont repris hier dans la zone. Certaines sources militaires parlent de la réoccupation des Peti par l'armée congolaise. Par ailleurs, un civil a été tué et 3 autres blessés lors d'autres affrontements hier jeudi près de Kibumba dans le Nyiragongo. Le récit de Bernard Nyangi.
Le FRDC et les combattants Wazalendo contrôlent à nouveau l'agglomération de Peti à 10 kilomètres de Pinga, affirment certaines sources militaires à Walikale. C'était dans la soirée hier jeudi, à l'issue des violents combats qui y ont repris dans la mi-journée. Toutefois, des sources civiles affirment que la situation reste très tendue et volatile dans cette zone où les rebelles M23, qui sont toujours en Udjenge, se regardent en chien de faïence avec les FRDC et leurs alliés locaux. Jusque ce matin vendredi, quelques tirs sporadiques s'y faisaient encore entendre, disaient ses sources. Par ailleurs, en territoire de Nyiragongo, certains notables locaux dressent le bilan d'un civil tué et de 3 autres blessés à l'issue des affrontements ayant opposé dans la matinée hier jeudi les rebelles M23 au FRDC et Wazalendo dans l'ouest de Kibumba. Ces civils faisaient la cueillette des bois de chauffe dans le parc quand ils ont été surpris par ces combats autour de 7 heures locales. Sur leur compte X, des sources rebelles M23 nient leur participation dans ces combats. Elles disent qu'ils auraient opposé certains éléments FRDC à quelques combattants Wazalendo à la suite d'un désaccord présumé sur la gestion des barrières illégales dans cette zone du parc. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, le vice-premier ministre, ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, et son homologue zambien, Ambroise Luigi Lufuma, ont signé conjointement hier à Kitwe, en Zambie, le communiqué officiel sur l'adoption des résolutions élaborées par les experts des deux pays à l'issue de la 13e session de la commission mixte défense et sécurité RDC Zambie. Bien avant cette réunion ministérielle, ces experts ont évalué les mesures préventives qui ont été prises pour mettre fin aux incidents constatés le long de la frontière commune. Ces travaux qui ont débuté lundi visent à promouvoir les relations de bon voisinage entre la RDC et la Zambie, notamment en matière de lutte contre la criminalité frontalière. On écoute à ce sujet le vice-premier ministre Jacquemain Chabani dans ses propos choisis par Grace Amzati.
Dans mon allocution d'ouverture, j'ai souligné que l'évaluation des recommandations devrait se faire sans complaisance et je m'en suis rassuré. Pour ce faire, un suivi rigoureux est nécessaire pour que la coopération franche recherchée par nos États devienne une réalité. C'est pourquoi de mon côté, j'instruis le secrétariat permanent Défense et Sécurité de mon ministère de faire ce suivi strict de toutes les résolutions et de me faire rapport chaque semestre. Cela en vue de privilégier la coexistence entre nos populations. Pour ma part, je me chargerai de rendre compte au chef de l'État et à la chef du gouvernement de mon pays des résolutions auxquelles nous sommes parvenus en vue de leur effectivité. C'est pourquoi j'exhorte les experts de nos deux États à ne ménager aucun effort en organisant régulièrement des rencontres et des concertations en vue de consolider davantage les acquis des présentes assises.
Et puis, à l'approche des festivités de fin d'année, le gouvernement dit veiller sur les prix des biens, le taux de change et l'exécution des dépenses publiques. La réunion stratégique du comité de conjoncture économique réunie mercredi à la primature a tablé sur les points essentiels au bon fonctionnement de l'économie du pays. Il s'agit notamment de la question relative à la surveillance des marchés de change et des biens et services, le niveau d'exécution de la dépense publique et la mobilisation des recettes, ainsi que la collaboration entre le ministère de l'économie et l'inspection générale des finances pour la baisse des prix des denrées alimentaires importées. Des détails avec vous, Jocelyne Moussaoupondé.
Le gouvernement note une stabilité des prix dans les différents marchés et la maîtrise du taux d'inflation. Écoutez à ce sujet Daniel Moukoko Samba, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale.
La stabilité qui s'est installée sur ces différents marchés se confirme semaine après semaine. Le niveau de prix est relativement stable, le taux d'inflation est maîtrisé.
Pour maintenir stable les prix sur les marchés, le gouvernement veille minutieusement à la bonne exécution des dépenses publiques ainsi que la mobilisation des et c'est par ailleurs fixé l'objectif de garder un niveau tolérable des dépenses en urgence en cette fin de l'année, a ajouté Daniel Moukoko Samba. Pour sa part, la première ministre a chargé le ministre de l'économie et l'inspecteur général des finances à collaborer pour faciliter la baisse des prix des denrées alimentaires importées. Notons que le ministère de l'économie nationale va amorcer les contrôles économiques comme bouclier contre la spéculation et protecteur des droits des consommateurs. Ces équipes de contrôle déployées sur terrain vérifieront les pratiques commerciales, la transparence, le respect de la réglementation en matière de prix et le respect de règles de concurrence. Chaque entreprise ou commerçant est appelé à afficher clairement les prix de ses produits et services.
Après 5 semaines d'attente de la promesse du gouvernement, les agents et cadres de la RTNC ont organisé hier un sit-in devant la primature à Kinshasa. Dans un entretien à Radio Kapi, le président de la délégation syndicale nationale de la RTNC, Christian Kadifouako, explique qu'il revendique le paiement de 25% de complément de leur prime de motivation spéciale et de la prime due à la recette de redevance. Au sortir d'un échange avec le cabinet de la première ministre, la délégation syndicale de la chaîne nationale dit noter le manque de volonté du gouvernement de résoudre leur désiderata. Christian Kadifouako l'a dit à Blaise Ndongala Mayanda.
Il devait y avoir les bons d'engagement de nos 25% du complément de salaire, des bons d'engagement de 4 mois, ce qui fait un total de 8 mois. Malheureusement, tous ces engagements n'ont pas été respectés parce que le gouvernement n'a fait qu'un seul bon d'engagement de 4 mois sans convoquer la réunion tripartite. Voilà ce qui nous a poussé de retourner encore à la primature pour continuer notre revendication. Nous avons été reçus, malheureusement, nous nous sommes séparés un peu en quai des poissons avec les collaborateurs de Madame la Première Ministre. Alors, nous nous sommes dit, si nous constatons que le gouvernement ne veut pas écouter les cris d'alarme du personnel de la RTNC, cela va nous pousser carrément à entamer le processus de la grève jusqu'à la cessation collective du travail. Parce que on ne peut pas comprendre, malgré tout ce que la RTNC fait, que le gouvernement puisse faire sourde oreille pour ne pas écouter les cris d'alarme du personnel de la RTNC.
En outre, le personnel de l'RTNC veut avoir des éclairages sur la traçabilité de leurs cotisations mensuelles à la Caisse nationale de sécurité sociale. Rendons-nous dans le territoire de Beni, au nord Kivu. Les cours n'ont toujours pas repris dans les 4 écoles de Masala, une localité du groupement des Bassoa-Madioué, située à environ 60 km à l'ouest de Beniville. En cause, la population a vidé le milieu depuis 5 mois à la suite d'une attaque des rebelles des EDF qui avait fait plus de 60 victimes. La société civile locale plaide pour un renforcement des mesures sécuritaires dans la région afin de garantir la protection des habitants qui commencent à y revenir. Récit des faits, Marc Marofimbo.
Depuis l'attaque sanglante du 7 juin dernier, qui avait fait plus de 60 morts parmi les civils, Masala est désertée par ses habitants. Les 4 écoles de la localité restent fermées et les cours sont envahis par les herbes. Bien que la vie reprenne lentement dans cette région, la population qui commence à y retourner vit la peur au ventre. La misère s'ajoute à la souffrance, car beaucoup ont tout perdu du passage des rebelles, précise le président de la société civile du groupement de Bassoa Madio, gesté par Luka Valami. Ce dernier ajoute que les enseignants et les élèves ont été déplacés à Katine, une localité située à 17 km de Masala. Jiste Palkou Kavalami mentionne également que l'eau potable manque dans cette zone, tout comme une structure sanitaire, l'unique dispensaire ayant été incendié par les rebelles. C'est pourquoi la société civile, tout en saluant la présence des forces conjointes FRDC et PDF dans la région, appelle les autorités à renforcer les mesures de sécurité pour protéger les populations qui retournent chez elles. Elle plaide aussi pour la reconstruction des infrastructures scolaires détruites à Masala. Il est important de souligner que cette localité est l'un des greniers du territoire de Beni, où l'on produit en grande quantité du manioc, du paddy, des haricots et de l'huile de palme. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Actualité internationale. La population marocaine a augmenté de près de 3 millions de personnes en 10 ans. Selon les résultats préliminaires du recensement national, la population du pays a atteint 36,8 millions d'habitants en septembre 2024. Bien que les détails complets du recensement n'aient pas encore été publiés, les chiffres préliminaires ont suscité des discussions et des inquiétudes parmi les nets citoyens. Le Canada ordonne la liquidation de la branche canadienne de TikTok, citant des risques précis pour la sécurité nationale, mais sans interdire pour autant l'accès et l'utilisation de l'application dans le pays. L'annonce du gouvernement signifie que TikTok devra fermer les bureaux qu'il possède à Toronto et à Vancouver. Ottawa impose cette mesure en raison des risques précis pour la sécurité nationale, a déclaré dans un communiqué le ministre canadien de l'Innovation.
L'invité.
Comme annoncé ce midi, nous recevons le professeur Victor Kalunga Chikala, recteur de l'université de Kalemie dans la province du Tanganyika. Dans cet entretien avec Paula Munanga, il fait un état des lieux de son institution qui totalise 20 ans d'existence cette année.
Monsieur le recteur Victor Kalunga Chikala, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Au fil des années, l'UNICAL a évolué et s'est vraiment métamorphosé. Pouvez-vous nous parler de cette évolution en quelques mots?
L'université de Kalemie, UNICAL en sigle, c'est la première et la plus grande institution académique de la province du Tanganyika. Elle a été créée et a existé pendant un certain temps comme étant une extension de l'université de Lubumbashi, qui est la maison mère.
C'était en quelle année?
En 2004, ce qui fait que cette année, l'UNICAL est âgée de 20 ans, c'est le jubilé de porcelaine. Beaucoup d'efforts ont été faits et depuis 2010, elle est devenue autonome comme université publique à part entière. Alors, beaucoup de choses ont changé, mais si il faut présenter un petit tableau de l'université de Kalemie, elle organise 8 domaines d'enseignement. Actuellement, notre effectif varie autour de 2500 étudiants. Nous avons 11 professeurs en propre à l'université de Kalemie. Nous avons 31 chefs de travaux, 105 assistants, dont 5 sont en formation doctorale à l'étranger et 56 sont en formation doctorale ici au pays.
Et comment organisez-vous la faculté de médecine qui exige certains préalables?
Oui, la faculté de médecine de l'université de Kalemie a quand même une petite histoire. À ses débuts, c'était un peu comme partout au pays, des facs de médecine ont été ouvertes partout. Et ensuite, une enquête de viabilité avait été menée sous l'administration du ministre, du professeur, au docteur Machako Mamba. La fac avait été fermée et quelques années après, on a fait une étude. On l'a réouverte parce qu'elle présentait un profil assez supérieur à celui des autres qui existaient au pays. Mais il y a 2 ans, lorsqu'une nouvelle enquête a été faite, cette faculté a été placée sous la tutelle de celle de l'université de Lubumbashi, donc elle n'a pas été fermée. Des efforts ont été déployés pour essayer de relever le niveau. J'ai écrit à son excellence monsieur le ministre de l'ESU qui m'a autorisé de recruter des enseignants spécialistes. J'en ai recruté des spécialistes et des professeurs docteurs à thèse en médecine. Et c'est ainsi que nous fonctionnons. Nous venions de recevoir il y a quelques temps une mission de contrôle de viabilité dirigée par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Elle était ici la semaine passée. Les termes de référence de ce contrôle nous avaient été partagés bien avant. La mission a fait son travail et nous sommes très optimistes que nous remplissons toutes les conditions requises pour former comme il se doit les médecins.
Oui, monsieur le recteur, l'université de Kalemie fait face à un problème de manque de professeurs. Comment vous palliez à cette situation?
Le manque de professeurs, c'est un problème qui est commun à toutes les universités, y compris les plus grandes universités, parce que aucune d'entre elles n'est complète en tout. Donc on a toujours besoin de l'expertise des autres. L'université de Kalemie n'est pas forcément une très mauvaise posture parce que nous avons déjà quelques professeurs en propre. À mon arrivée, il y a simplement 5 ans, l'UNICAL n'avait aucun professeur. Elle avait fonctionné pendant 14 ans sans aucun professeur en propre. Mais pendant 5 ans, je suis à 11 professeurs propres à l'UNICAL. Mais pour compléter cette équipe, j'ai fait recours à des professeurs visiteurs. L'année passée, on en a fait venir 58. L'année académique qui commence ici, notre objectif est d'en faire venir 80 qui viendront de l'université de Lubumbashi. de l'université officielle de Bukavu, les deux principales universités avec qui nous avons des partenariats, mais aussi d'autres établissements de l'issue de Kinshasa, de Kisangani et de partout.
Mais nous avons constaté que plusieurs cours sont dispensés par des assistants et chefs de travaux en lieu et place des professeurs. Cela n'est pas un handicap au sein de votre institution universitaire?
Il faut relativiser. J'ai dit ici que nous recevons près d'une soixantaine de professeurs. Si nous mettons la moyenne des 240 heures par professeur, faisons le calcul, ça fait aussi plusieurs cours qui sont dispensés par des professeurs. Qu'il y ait des assistants, des chefs de travaux qui animent des enseignements, ce n'est pas simplement le cas à l'UNICAL, même à l'UNIKIN où il y a des milliers de professeurs, même à l'UNILU où il y a des centaines de professeurs, des assistants dispensent des cours.
Monsieur le recteur Victor Kalunga Chikala, je vous remercie.
Merci infiniment, bonne journée à vous.
Le recteur de l'université de Kalemie répondait aux questions de Paul Mounanga. C'est la fin de ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, supervision d'Alain Rungmouching et Martin Sebujangwe, à la mise en onde d'Eps Vita. Merci d'avoir été des nôtres.